Ah oui, du coup. Attends. Je vais quand même prendre mon téléphone pour avoir l'heure parce que j'ai pas du tout l'heure sur le truc. Donc je vais... Ah, voilà, c'est pas le tech, mais j'ai pas de montre. Donc, hop. Voilà, donc bah, effectivement, moi je vais vous présenter, enfin vous parler des bénéfices potentiels de l'intelligence artificielle pour faire face aux crises environnementales. Donc voilà, donc j'ai été. C'est Sarah Cohen-Boulakia, qui est directrice du GDR Madix, qui m'a demandé d'intervenir, voilà, qui m'a laissé complètement carte blanche. Mais elle m'a dit d'en profiter pour dire que pour l'instant, il n'y a pas de groupe de travail sur ces questions dans Madix. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir me voir. Alors, voilà, hop. Donc juste pour resituer, moi je suis prof en informatique à l'ENSI Lisson et puis ma recherche depuis quelques années, c'est sur les impacts environnementaux du numérique. Et autre petite information dès le départ, c'est que dans tout l'exposé, je vais parler d'intelligence artificielle, mais en réalité, ce dont je vais principalement parler, c'est tout ce qui est apprentissage profond, deep learning. Voilà, je suppose que tout le monde est à peu, enfin voilà, tout le monde sait à peu près tout ce que, enfin ce que c'est que l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. Mais voilà, pour préciser, hein, je parlerai pas d'IA de façon complètement générale. Je m'intéressais plutôt à tout ce qui est apprentissage profond, même si on va voir qu'en fait c'est un petit peu plus large que ça. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de se poser la question des impacts environnementaux de l'IA? Bah, depuis quelques années, enfin depuis pas mal d'années maintenant quand même, ça commence à faire un petit peu de temps, il y a de nouvelles méthodes donc d'apprentissage profond qui ont pu être développées grâce à des avancées d'un point de vue à la fois logiciel et matériel, hein, notamment tout ce qui est calcul sur GPU, ce qui fait qu'on peut entraîner maintenant des modèles qui sont beaucoup plus importants, avec beaucoup plus de données, en un temps raisonnable et sur du matériel relativement basique. Voilà, en général, donc quand on parle d'apprentissage profond, enfin là, en l'occurrence, je vais m'intéresser surtout à tout ce qui est apprentissage profond supervisé, même si ce n'est pas forcément complètement que supervisé en réalité, mais enfin bon, avec une phase d'entraînement, puis une phase d'inférence ou de test. Donc voilà, dans la phase d'entraînement, hein, on prend des données en entrée. Donc je disais, c'est pas forcément complètement supervisé parce qu'en fait, il y a un certain nombre de modèles qui se font de façon non supervisée, mais en tout cas, il y a toute une partie d'entraînement ou de création de modèles et puis toute une partie d'inférence. Et alors pourquoi on s'intéresse aux impacts environnementaux de l'IA? Parce que du coup, avec la création de ces nouveaux modèles, les impacts environnementaux sont potentiellement importants, puisqu'on a une grande quantité de données qui sont traitées, et ça nécessite de grandes ressources de calcul. Et puis une autre raison de s'intéresser à ces impacts, c'est que l'IA est souvent présentée comme une solution, mais sans prendre en compte ses impacts négatifs. Alors, quelques petites preuves que ça peut être présenté comme une solution aux problèmes environnementaux. Donc à gauche et à droite, vous avez des rapports de cabinets de conseil sur l'IA. Un premier donc, a été fait pour Microsoft par Price sur comment est-ce que l'IA peut permettre d'avoir un futur durable. Donc il y a à chaque fois des estimations du potentiel, enfin, de la potentielle réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'IA. Donc là, voilà, ça pourrait permettre de réduire de 4% les gaz à effet de serre. J'aime particulièrement bien ce rapport parce que ils expliquent carrément que l'IA pourrait aider au découplage de la croissance économique par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, je trouve que c'est voilà, surtout en disant que ça fait que moins 4%, je trouve ça assez étonnant quand même. Et puis il y a un autre rapport donc pareil, hein, qui estime que la réduction des émissions dues à l'utilisation de l'IA, ça pourrait permettre de réduire de 5 à 10% les émissions de gaz à effet de serre. Globalement, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'IA, hein, c'est des choses qu'on va retrouver un petit peu de façon générale dans tout ce qui est promesse du numérique. Je crois que Guillaume d'ailleurs parlera tout à l'heure des rapports GESI et GSMA qui ont à peu près le même. Voilà, les mêmes prétentions sur l'ensemble du numérique. Et comme ces rapports-là, en fait, c'est les deux rapports que je présente ici sont basés sur des modèles pour lesquels on n'a pas forcément de précision. Donc c'est très compliqué de savoir comment est-ce qu'ils ont calculé ça. Mais ils sont quand même assez largement diffusés et largement cités. Et voilà. Et donc parfois de façon assez positive, parfois de façon un petit peu plus critique. Donc là, en l'occurrence, ce qui est au milieu, c'est un rapport cette fois-ci du Parlement européen, toujours sur le rôle de l'intelligence artificielle, mais pour le Green Deal européen. Et donc ils étudient quelles sont les possibilités d'utilisation de l'IA dans différents secteurs, mais il y a quand même aussi toute une partie critique, notamment sur ce genre de rapport, où ils expliquent que, effectivement, le modèle n'est pas tellement décrit et que du coup, c'est absolument impossible de savoir quels sont les, est-ce que c'est des chiffres qui sont valables ou pas. Alors j'ai oublié de mettre l'année ici, hein, mais tout ça, ça date d'à peu près 2019 à 2021. Et puis un autre article dont je reparlerai plus tard, c'est un article qui a été écrit en 2019 par une grosse partie de la communauté de l'apprentissage qui s'intéresse à tout ce qui est justement application à des problématiques environnementales, de David Rolnick et plein d'autres collègues, qui s'appelle Tackling Climate Change with Machine Learning, et qui regarde en fait justement dans plein de secteurs, donc là en fait j'ai mis tout ce qui est agriculture, surveillance des forêts, des sols, etc., mais qui regarde dans plein de secteurs quels sont les potentiels d'application de l'IA pour réduire l'impact environnemental de chacun des secteurs. Donc là, ici, par exemple, on voit qu'ils expliquent que l'apprentissage automatique, ça peut permettre de faire de l'agriculture de précision, avec un fort impact possible, mais qui est quand même incertain, ou ça peut permettre aussi de surveiller les feux de forêt, et donc, pareil, ça permet d'avoir un impact, de mieux gérer les feux de forêt. Alors, oui. Pourquoi est-ce que c'est problématique d'avoir ce genre d'article ou de rapport qui va essayer de dire que l'IA peut aider? En fait, on est, comme vous le savez, on en a pas mal parlé, hein, on est dans un certain nombre de crises environnementales. Alors, je vais parler principalement du climat dans l'exposé, et d'empreintes carbone, donc je m'en excuse, mais c'est pas que j'ignore le reste, c'est que c'est là-dessus qu'on a le plus de données et qu'il y a le plus d'informations. On est clairement pour l'instant pas du tout dans des trajectoires de limitation du réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés. Il y a quand même beaucoup de recherches qui sont complètement déconnectées de ces problèmes encore. Et je vais montrer pourquoi. Encore une fois, c'est pas spécifique à l'IA, hein, c'est quelque chose qui est très général sur les nouvelles technologies et en particulier le numérique. Si vous ne connaissez pas, c'est une BD qui s'appelle Le poids du clic qui essaye de vulgariser toutes ces questions-là. Alors, une fois qu'on a fait ce constat il y a beaucoup de promesses avec l'IA, est-ce que c'est des promesses qui peuvent se vérifier? On va se demander comment est-ce qu'on fait pour mesurer du coup l'impact de l'IA et du coup le bénéfice potentiel. Alors la première façon de faire, hein, c'est une approche bottom-up, on va juste calculer, je vais passer assez vite sur tout ça parce qu'on en a déjà parlé pas mal et puis je pense que c'est des choses que vous connaissez, mais c'est juste pour rappeler un petit peu le principe. On va regarder du coup, quand on entraîne un modèle, on va regarder qu'est-ce qui consomme de l'énergie supplémentaire du fait de l'exécution du programme, et puis on va sommer toutes ces consommations d'électricité, et puis on va multiplier par un facteur d'émission qui va permettre de convertir notre consommation d'électricité en émissions de gaz à effet de serre, donc en l'occurrence en kilogrammes de CO2 équivalent. Donc voilà, ça nous donne une première empreinte carbone. Le facteur d'émission, forcément, il varie beaucoup en fonction du pays où on est. Ça c'était à un moment, je ne sais plus quand, début mars, je crois, que j'avais pris ces facteurs d'émission-là. En France, on était à peu près à 101 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Si on regarde en Pologne, on était à 927, et en Norvège, par contre, on était à 22. Donc on voit que c'est très variable selon les pays. Et puis, de façon pas très étonnante, hein, étant donné que notre empreinte carbone, on a décidé qu'elle était proportionnelle à notre facteur d'émission, si on regarde ce que ça donne d'un point de vue empreinte carbone pour l'entraînement d'un modèle, on voit que l'empreinte carbone va beaucoup varier en fonction du facteur d'émission. Donc tout à gauche, là, donc ça c'est l'empreinte carbone qui a été calculée donc, avec la méthode dont je parlais tout à l'heure. Pour l'entraînement de plusieurs modèles, les modèles n'ont pas tellement d'importance, mais par contre ce qui est intéressant c'est de voir la différence en fonction des pays. Et étant donné que les facteurs d'émission vont, ont des facteurs à peu près 10, forcément c'est ce qu'on retrouve aussi sur l'empreinte carbone. Donc là je montrais la France tout à l'heure, on est à peu près pour le plus gros modèle à 100 grammes de CO2 équivalent pour l'entraînement, et pour la Pologne dont je parlais aussi, on est à peu près à 1000, voilà, ce qui était à peu près attendu. Alors, évidemment, quand on fait ça, on ne mesure pas la totalité des impacts qui sont dus à l'exécution du programme, on en a parlé pas mal tout à l'heure. Enfin, hier, pardon. Et donc, une première raison pour laquelle on ne mesure pas tout, c'est qu'en fait, la consommation d'électricité qu'on mesure en faisant ça, ce n'est pas du tout la totalité de la consommation du data center. Alors là, je vous ai mis sur la gauche les résultats donc pour Jean Zay, qui est un gros centre de calcul dédié à l'IA en région parisienne. Et en fait, on a regardé quelle était la consommation électrique. Donc, la première ligne, c'est en mode infra, c'est-à-dire que tout est allumé sauf les serveurs de calcul. La deuxième ligne, c'est tout est allumé, y compris les serveurs de calcul, mais il n'y a rien qui tourne dessus. Et la troisième ligne, c'est en mode production, donc cette fois-ci, c'est la moyenne en fonctionnement. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, alors d'une part, toute la partie infra n'est pas du tout négligeable, ça on le sait, c'est des choses qu'on prend en compte, j'en parlerai tout à l'heure. Mais surtout, ce qu'on peut voir aussi, c'est que entre le mode qui est appelé idle, là où tout est allumé, mais où il n'y a pas d'exécution de travaux, et puis le mode production, on voit qu'il y a quand même une grosse partie qui est due aussi au fait que les serveurs soient allumés, même s'il n'y a aucun calcul qui tourne dessus. Donc, ça, c'est un petit peu. Ça veut dire que, du coup, quand on prend en compte que le coût supplémentaire du calcul, on va forcément oublier toute une partie de la consommation d'électricité. Et puis, donc, je disais qu'il y a toute une partie qui est due à la consommation de l'infrastructure aussi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, quand on prend la consommation du serveur de calcul au moment de l'entraînement, on va prendre en compte que cette partie-là, c'est-à-dire la partie serveur de calcul, et puis on oublie un petit peu tout le reste. Alors que y a plein d'autres choses qui consomment dans un data center ou dans un centre de calcul, notamment tout ce qui est serveur de stockage, les équipements réseau, la climatisation, etc., etc. Et donc ça, la façon dont c'est pris en compte en général, c'est qu'on va regarder le PUE, qui est donc l'indicateur d'efficacité du data center, et qui va être calculé en prenant la consommation d'énergie totale, d'électricité totale, sur la consommation des équipements informatiques. Donc le PUE est forcément supérieur à 1, et globalement, on va considérer que, du coup, l'empreinte carbone qu'on va utiliser, on va multiplier par le PUE, ce qui donne une sorte de coûts environnementaux supplémentaires dus à l'environnement des serveurs de calcul. Donc voilà, ça c'est globalement la formule qui est utilisée par la plupart des outils qui existent actuellement. Donc là j'ai mis un exemple qui est Green Algorithms, qui est un outil en ligne, mais il y a aussi un certain nombre de packages Python ou d'autres types de programmes qui permettent de calculer l'empreinte carbone aussi. Et donc où là vous indiquez simplement en l'occurrence, donc ça c'est un outil qui va faire une estimation, hein, c'est pas une mesure précise, mais vous indiquez simplement le nombre d'heures cœur que vous avez utilisé, le nombre de cœurs, la mémoire, etc. Et puis ça vous donne à la fois la consommation électrique et l'empreinte carbone associée. Donc je crois que Mathilde parlera de tout ça tout à l'heure, donc je vais pas plus détailler. Voilà, nous on avait fait pareil, hein, c'est quelque chose je pense sur lequel on reviendra plus tard, mais on avait fait une étude en 2021. Alors depuis j'ai vu qu'il y a des outils qui ont un petit peu changé, et puis il y a de nouveaux outils qui sont peut-être un peu plus fiables, etc. Mais où on avait regardé quelle était l'empreinte qui était donnée par plusieurs outils. Donc tous les outils qui sont à gauche c'est des outils, c'est des packages Python, et tous les outils qui sont à droite c'est des outils en ligne. Et on avait regardé quelles étaient les empreintes carbone qui étaient calculées pour l'entraînement de plusieurs modèles. On voit que ce soit sur un serveur local ou sur une infrastructure de calcul, on voit que les empreintes carbone qui sont données ne sont pas du tout cohérentes les unes avec les autres selon les outils. Alors un peu plus côté outils d'estimation, parce que là pour le coup, il y a moins de variations. Enfin, là, la variation, elle est plutôt due aux données qui sont en entrée de l'outil. Mais côté outils qui sont censés mesurer, il y a vraiment des choses qui sont des grosses variations. Alors, toute cette question de l'empreinte carbone, elle a pas mal émergé avec un article qui date de 2019 où les auteurs avaient regardé 4 modèles de traitement automatique des langues, état de l'art à l'époque, et ils avaient fait une mesure logicielle de la consommation. Ils ont regardé quelle était l'empreinte carbone associée, donc en entraînant chacun des modèles, donc ça prend quelques jours à quelques semaines, puis les émissions qu'ils trouvaient, c'était entre 18 kg de CO2 équivalent et 284 tonnes, sachant que le modèle état de l'art à l'époque, c'était à peu près une demi-tonne de CO2 équivalent, c'est-à-dire un aller Paris-Hong Kong en avion ou 2500 km en voiture. Donc c'est des empreintes carbone qui ne sont pas du tout négligeables. Alors, étant donné que ces empreintes carbone, elles ne sont pas du tout négligeables, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment intéressant d'entraîner tous les monomodèles pour avoir une précision maximale, ou est-ce que on peut essayer de faire des compromis entre précision et empreinte carbone. Donc là, c'est ce qu'ont fait les auteurs de cet article aussi. Oui. Ah oui, non, j'étais en train de me dire, j'ai oublié la référence, mais elle est dans le titre, tout va bien. Ça, c'est ces deux graphes qui représentent l'empreinte carbone en fonction du taux, l'évolution de l'empreinte carbone en fonction du taux d'erreur au moment de l'entraînement de modèles de reconnaissance de la parole. Globalement, plus on va vers là, mieux c'est, hein, c'est-à-dire que l'entraînement avance et le taux d'erreur baisse. Les axes sont inversés, donc voilà. Les deux corpus sont des corpus différents, celui de gauche étant plus difficile que largement reconnu comme plus difficile que celui de droite, donc c'est normal que les chiffres ne soient pas du tout les mêmes. Mais la question qui se sont posées du coup, c'est si on avait arrêté l'entraînement à la moitié de l'empreinte carbone totale, qu'est-ce qu'on aurait perdu en précision? Donc sur le corpus de gauche, hein, on voit que du coup, si on arrête à la moitié de l'empreinte carbone totale, on perd à peu près 2 points et demi de taux d'erreur. Donc là, peut-être que ça peut être pertinent. Si on regarde sur le graphe de droite, cette fois-ci, par contre, on perd que 0,3 à peu près, enfin, je lis très vite, de taux d'erreur. Et donc là, la question peut beaucoup plus se poser de est-ce que vraiment c'est pertinent de continuer à dépenser toute cette électricité avec l'empreinte carbone associée, étant donné qu'on a un gain très faible. Donc clairement, les auteurs répondent que non, c'est pas pertinent. Hein. Je spoil pour ceux qui n'ont pas lu l'article. Et disent que du coup, ça pose vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire de la recherche sur ce genre de questions, sachant que rien que d'entraîner un modèle à l'état de l'art, ça a une empreinte carbone qui peut être assez importante. Et puis, jusqu'ici, j'ai parlé que de consommation d'électricité. Mais il y a eu des exposés là-dessus aussi hier. Hein. Évidemment, il n'y a pas du tout que la partie consommation d'électricité qui est ce qui est ici au moment de la phase d'usage qui devrait être prise en compte. Il y a aussi tout le cycle de vie des équipements, donc tout ce qui est phase d'extraction des matières premières, fabrication, distribution et fin de vie. Et en fait, tout ça, ça a des impacts en plus environnementaux variés en termes d'épuisement des ressources abiotiques, de consommation d'eau, de consommation d'énergie, etc. Et donc tout ça, potentiellement, on devrait le prendre en compte. Alors si on regarde, il y a peu d'études hein, qui regardent ça sur des modèles d'intelligence artificielle, mais il y a une étude, donc, notamment de Facebook de 2021, qui a regardé quelle était la répartition entre l'empreinte carbone liée à la partie production et à la partie usage pour l'entraînement de leur modèle. Et donc, ce qui est en bas en rouge, c'est la partie production, entourée en rouge, et puis ce qui est en haut, c'est la partie usage. Donc on voit que là, la partie production n'est pas du tout négligeable. Et puis, pour donner un autre exemple, ça, c'est l'empreinte carbone, donc juste pour la partie serveur. Hein, l'étude est beaucoup plus large que ça, mais là, je ne présente que la partie serveur. Donc pour le centre de calcul GRICAD à Grenoble, c'est pareil, ils ont calculé l'empreinte carbone pour la partie production et la partie usage. Bon, alors mon graphique est assez mal fait, mais la partie production, c'est ce qui est en clair, en jaune clair et en bleu clair, et la partie usage, c'est ce qui est en foncé. Et donc on voit que la partie production, ça représente à peu près 40% de l'empreinte carbone totale due au serveur. Donc idem, c'est pas du tout négligeable, et c'est quand même un petit peu problématique de l'ignorer. Et puis, dernière chose qu'on n'a pas prise en compte pour l'instant, hein, c'est que là, on s'est concentré vraiment sur toute la phase d'apprentissage. Mais en réalité, il y a plein de tâches lorsqu'on veut mettre en place un service d'IA, donc qui va l'acquisition des données, traitement des données, stockage des données, etc. Et puis, il y a toute une partie aussi inférence, hein, parce que si on apprend un modèle, a priori, c'est pour l'utiliser, c'est pas juste pour faire joli. Et donc, il y a toute la partie inférence qui, évidemment, individuellement, a une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible, mais par contre, qui peut être répété beaucoup plus de fois. Et donc là, pareil, il y a peu d'informations. Alors en fait, j'aurais pu mettre aussi, parce qu'on a fait l'étude sur le modèle Bloom qui a été créé l'année dernière. Mais bon, là, je montre encore une fois une étude de Facebook où ils ont regardé quelle était l'empreinte de la partie entraînement par rapport à la partie inférence. Donc la partie inférence, c'est ce qui est en noir, et puis la partie entraînement, c'est ce qui est en hachuré et orange en dessous. Donc on voit que selon les modèles, en fait, il y a aussi des répartitions l'empreinte carbone de l'inférence peut ne pas être du tout négligeable. Donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'évidemment, ça dépend du nombre de fois où on réentraîne le modèle. Donc par exemple, pour des modèles de traduction qui n'ont pas besoin d'être réentraînés si souvent que ça, la partie inférence va avoir un poids beaucoup plus important, alors que pour des modèles de recherche qui sont réentraînés très très régulièrement pour suivre les tendances, la partie entraînement va avoir un poids plus important. Et puis, pour terminer sur tout ce qu'on n'avait pas pris en compte jusque-là, jusqu'ici, en fait, on s'est concentré que sur la partie qui est appelée ici Compute-Related Impacts, mais donc la partie des impacts directs, c'est-à-dire tout ce qui est lié au cycle de vie des équipements. Mais en réalité, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'IA est considérée comme bénéfique d'un point de vue environnemental, il y a des effets qui sont aussi de deuxième et troisième ordre. Donc par exemple, on va se dire, on voudrait, quand on parle d'agriculture de précision, on suppose qu'en mettant des capteurs partout, etc., on va pouvoir optimiser la quantité d'intrants ou d'eau dont on a besoin. Et donc ça va avoir des impacts positifs, indirects. Et donc ça, c'est tout ce qui est donc impact de second ordre, c'est principalement tout ce qui est optimisation et substitution. Et puis on a aussi des impacts qui sont plus systémiques, ou alors qui vont mettre en jeu des changements des utilisateurs. Alors pour donner un petit exemple, donc ça c'est un exemple qui est dans la déclaration de Montréal pour des systèmes d'IA responsables. Si on regarde les impacts directs, indirects, donc on se dit on va faire une application pour optimiser le trafic automobile. Le but, c'est à gauche, hein, c'est que de façon indirecte, ça permet d'optimiser la consommation de carburant et donc de réduire l'impact des déplacements automobiles. Sauf que si on regarde déjà d'un point de vue impact direct, si on veut optimiser le trafic automobile, ça veut dire qu'on va potentiellement utiliser de nouveaux objets connectés, des nouveaux capteurs, etc. Donc déjà d'un point de vue impact direct, on va avoir des choses en plus. Et puis d'un point de vue des impacts indirects, on a potentiellement des effets rebonds, c'est-à-dire que si le trafic est plus fluide, les gens vont potentiellement habiter plus loin puisque ça va être plus rapide d'aller au travail. Et puis on a aussi tout ce qui est dépendance de chemin, c'est-à-dire que là le fait de travailler sur le trafic automobile, ça veut dire qu'on ne travaille pas sur les transports en commun ou les mobilités actives. Voilà, globalement, l'effet rebond, ça s'observe aussi au niveau sectoriel. Hein. Donc ça, c'est un article de David Boll et des collègues qui ont repris la décomposition de Kaya de l'empreinte carbone. Et puis, en fait, ce qui monte sur plusieurs secteurs, donc pareil, je ne vais pas détailler tout ici, mais ce qui monte, c'est que, alors évidemment, l'intensité carbone de l'énergie baisse, hein, on utilise de plus en plus d'énergie renouvelable, etc. L'intensité énergétique de la technologie baisse aussi, on a des appareils qui sont de plus en plus performants. Mais alors d'une part, la population augmente, donc là en l'occurrence c'est le nombre d'utilisateurs, mais surtout en fait on a une utilisation de la technologie qui augmente beaucoup, ce qui fait qu'au final l'empreinte carbone absolue continue à augmenter. Et ça c'est problématique parce que si je reprends ma courbe d'émission de tout à l'heure et puis que je regarde les courbes prévues pour le numérique, alors même si je pourrais discuter, mais je suppose que ça va être discuté un petit peu plus tard, ça. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais si on regarde, en tout cas, ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur des courbes de réduction qui suivent les courbes des accords de Paris. Celui-là, il aurait dû être avant, mais c'est pas grave. Quand je parlais d'analyse de cycle de vie, du coup, évidemment, on devra prendre en compte d'autres indicateurs environnementaux. Donc, pour résumer globalement, vous voyez qu'en fait, donc ce qu'on prend en compte ici, enfin, j'essaie de résumer un petit peu ce qui était pris en compte en gris quand on calcule les empreintes carbone actuellement, et puis ce qui n'était pas pris en compte. Donc, on prend en compte principalement l'usage dans le cycle de vie, principalement tout ce qui est centre de calcul dans les équipements, principalement tout ce qui est apprentissage dans les phases de l'IA. On garde quasiment que l'empreinte carbone et puis quasiment que les impacts directs. Donc, y a des façons de réduire l'empreinte carbone. Hein. Donc là, je ne vais pas détailler, mais voilà, on a fait un article, par exemple, avec Sacha Lucioni pour donner des bonnes pratiques pour les personnes qui utilisent des méthodes d'IA. Il y a eu d'autres propositions, hein, par exemple le fait d'indiquer systématiquement l'empreinte carbone et plein d'autres informations dans les articles. Et puis, on a fait aussi un document de cadrage, donc, notamment avec Laurent et Denis qui sont là, pour essayer d'inciter les gens qui déposent des projets qui impliquent des méthodes d'IA à évaluer quels pourraient être les impacts environnementaux. Donc à la fois les impacts qui sont liés au cycle de vie des équipements numériques, mais aussi essayer de regarder est-ce que la méthode elle est bien justifiée par rapport aux problèmes qu'on a. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue de la résilience du système? Quels sont les impacts qui sont dus aux changements sociétaux? Donc, voilà, quels sont globalement les effets indirects potentiels? Il y a aussi donc pas mal de choses qui ont été écrites sur tout ce qui est IA responsable. Hein. Voilà, j'ai parlé notamment tout à l'heure de la déclaration de Montréal pour l'IA responsable. Je vais passer un peu vite là-dessus. Juste pour reprendre, parce que donc, souvent quand on parle de l'article de Strubel, on me dit oui, mais il y a un article de Google derrière qui essaie de démonter tout ça et qui dit qu'effectivement, dans leur premier article où ils ont estimé l'impact des modèles, ils n'ont pas pris en compte les modèles qui étaient les plus efficaces. Donc maintenant, il y a des nouveaux modèles qui marchent vachement mieux. Ils n'ont pas pris des processeurs. Enfin, il y a maintenant des processeurs qui sont beaucoup plus optimisés pour l'apprentissage. On peut choisir aussi son cloud pour avoir une meilleure efficacité énergétique et puis choisir aussi un endroit où le mix électrique est le plus bas carbone. Et voilà. Et il conclut plus ou moins en disant que, en plus, comme Google achète que de l'énergie renouvelable, et ben, c'est comme si son impact était zéro. Voilà. Donc, évidemment, c'est un article un petit peu biaisé, on va dire. Il n'y a pas du tout de prise en compte du cycle de vie, hein, même s'ils en parlent, mais ils disent que ça fera l'objet d'études ultérieures. Alors que justement, le fait, par exemple, de remplacer des processeurs pour avoir des processeurs plus récents, ça veut dire qu'on va augmenter l'empreinte carbone qui est due à la fabrication. Ils ne prennent pas du tout en compte l'inférence. Ils parlent d'énergie, zéro carbone d'impact net zéro, mais avec tout, toutes les limites que ça peut avoir, notamment, par exemple, si on parle de l'inférence, là, clairement, on ne sera pas forcément dans de l'électricité bas carbone. Et puis, c'est un argument aussi qui me semble un petit peu problématique, hein, évidemment, que si tout était tout le temps optimisé, l'empreinte carbone de tout serait beaucoup moins importante. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Et il me reste 2 minutes, mais je vais quand même essayer de terminer pour reprendre donc tout ce que je racontais sur l'IA pour des applications environnementales. Actuellement, en fait, quand on regarde des articles qui envisagent d'utiliser l'IA pour des applications environnementales, ils prennent en compte tout ce qui est impact positif qui sont liés à l'utilisation numérique, mais pas du tout tout ce qui est impact négatif. On a fait une évaluation donc, avec plusieurs collègues. Donc, vous souvenez, je vous parlais de l'article de Ronique au tout début, là, qui regardait quelles étaient les applications potentielles d'apprentissage automatique. On a regardé 57, donc c'est un article qui fait un gros état de l'art, hein, qui prend plein d'autres papiers et puis qui regarde comment ça pourrait être utilisé. Donc, avec des collègues, on a regardé 57 des citations de cet article-là. Et puis, on a regardé globalement, est-ce qu'ils font pas du tout mention en fait du gain environnemental, est-ce qu'ils en font mention de façon générale, est-ce qu'ils en parlent un petit peu plus précisément, est-ce qu'ils prennent en compte le gain énergétique mais sans prendre en compte la consommation d'énergie de l'IA. Puis on avait d'autres catégories, hein. Est-ce qu'ils prennent en compte le cycle de vie de l'IA, la consommation de l'IA, est-ce qu'ils prennent en compte le cycle de vie, est-ce qu'ils prennent en compte les effets indirects mais qu'on n'a jamais utilisé, parce qu'en fait il n'y avait aucun article qui faisait une évaluation correcte de l'impact, du gain environnemental en utilisant des applications de l'IA. Voilà, il y a d'autres biais hein, dans toutes ces études d'impact. Donc là, le fait que, par exemple, le cycle de vie soit pas pris en compte et les effets indirects non plus, j'en ai déjà parlé. Mais dans les autres biais, il y a par exemple le fait que on compare forcément, pas forcément un scénario de référence qui est pertinent. Donc, par exemple, si on regarde, donc on a, pareil, on en a parlé hier, mais si on regarde une application de covoiturage et puis qu'on essaye de voir quels sont les bénéfices environnementaux, si on suppose que tous les gens qui ont covoituré auraient pris leur voiture de façon seule, on biaise un petit peu les résultats. Alors, c'est potentiellement vrai dans certains cas, mais c'est pas vrai de façon générale. Et puis l'autre chose, c'est que les gains sont en général complètement déconnectés des scénarios globaux. Donc on va avoir des bénéfices de 0,3% de gains d'énergie ou des choses comme ça. Quand on voit les réductions de gaz à effet de serre qu'on devrait faire, on n'est clairement pas du tout dans les bons ordres de grandeur. Et puis avec des mesures qui sont incompatibles. J'en parlais tout à l'heure, le fait de travailler par exemple sur l'optimisation du trafic, ça veut dire qu'on va... si on regarde des choses de covoiturage ou de transport en commun, etc., si on met des mesures dans tous ces domaines-là, elles ne vont pas forcément être compatibles. Donc, pour conclure, globalement, le message principal, c'est à mon avis, quand on utilise des méthodes d'IA, il faut le faire en réfléchissant à la fois aux impacts directs et indirects qui sont possibles. Sachant que je ne suis pas en train de dire qu'une analyse de cycle de vie, ça résout tout. Hein. Concrètement, c'est compliqué, ça pose plein de problèmes de périmètre, etc. Donc, c'est pas du tout une méthode magique qui marche pour tout. Mais je trouve que ça devrait être quand même le minimum de regarder en regardant au moins le cycle de vie. Et puis, réfléchir de façon systémique et pas se limiter à une application et regarder qu'est-ce que ça donne globalement par rapport aux scénarios globaux.